Le bonheur, c'est le progrès, faites un pas en avant. Et c'est le progrès, mais ce n'est jamais le bonheur. Alors si on faisait un pas de côté, si on essayait autre chose.
C'est la première fois qu'on fait grève et puis ce sera la dernière, parce que celle-là, on va la gagner.
Ouais, faut arrêter de se faire exploiter, là, faut essayer.
Ont fait, ont donné de leur sueur, donné de leur santé, ou même souvent de leur vie, pour faire faire des bénéfices à une entreprise. Et que quand vous avez des actionnaires qui prennent cet argent, qui se le mettent dans les fous, vous comprenez ? On est dans un système pourri.
Ce que le gouvernement est en train de faire, c'est une catastrophe sans nom. On est en train d'écraser la liberté d'expression, on est en train d'écraser les droits, les libertés des salariés, et tout ça, ça cache en réalité la casse du code du travail qui arrive avec Macron, et tout ça sous couvert de l'ultralibéralisme et du travail pour tous. Je pense qu'à un moment donné, il va forcément se passer quelque chose parce que les gens vont pas pouvoir continuer à s'écraser.
Qu'est-ce que tu fais ?
La révolution !
Démobilisation générale, 8e exercice préliminaire. Aujourd'hui à l'heure dite, on s'arrête, on se parle. Comment tu l'as su, toi ?
J'ai entendu au poste.
Bah oui, moi j'ai toujours entendu annoncer les exercices préliminaires à la radio.
Alors, les types de la radio sont avec nous ?
C'est pas qu'ils sont avec nous, c'est qu'on est partout.
Quelle info ?
Moi je trouve qu'il y en a un petit peu marre des préliminaires.
Bah allons-y, arrêtons tout pour demain.
C'est lundi, dans mon lit, il est 11h, mal au cœur, déjeuner, mon café, la radio, trop c'est trop, les midis, les parents sont rentrés.
Bonsoir, c'est le Canu Info du lundi 16 janvier, vous êtes bien sur Radio Canu, bien sûr la plus rebelle des radios.
À l'international aujourd'hui, on vous parlera de la répression du mouvement écolo en Allemagne et d'une amère victoire contre la justice raciste en Grèce.
On continuera avec une interview préenregistrée avec des membres du comité de soutien Vincenzo Vecchi.
On poursuivra au national avec la réforme des retraites et un focus sur la loi Darmanin.
Au local, on parlera d'un plan social dans l'entreprise Tout par Gel et de la grève menée par les travailleurs et travailleuses.
Et puis, nos camarades de la CGT Ville de Lyon seront là à la fin de l'émission pour une interview.
Et pour commencer, d'abord, nous allons vous parler de la citation de la semaine.
Et oui, on commence par la citation de la semaine qui nous vient d'Aed Al-Jaber, nouveau président de la COP28, la 28e conférence des Nations Unies sur le changement climatique. Nous sommes à un tournant historique, une croissance avec de moindres émissions de CO2 et l'avenir. Tant que le monde utilisera encore des hydrocarbures, nous devrons veiller à ce qu'ils soient les moins intensifs possibles. Continuons à nous concentrer sur le fait de freiner les émissions, pas le progrès. Et oui, parler écologie et climat, ok, mais faudrait quand même pas avoir des objectifs internationaux trop gênants pour l'industrie énergétique, surtout quand on préside la COP28 tout en étant ministre de l'Industrie des Émirats Arabes Unis et PDG du géant pétrolier Abu Dhabi National Oil Company, la compagnie pétrolière émiratie nationale. La COP28 aura lieu à Dubaï du 30 novembre au 12 décembre 2023 et a priori, c'est toujours pas cette 28e fois qu'une internationale écologiste décidera de taper dans le profit des industries de l'énergie.
Et tout de suite, les brèves.
Oui, on va du côté des Côtes d'Armor, hein, à Calac, très précisément une commune d'un peu plus de 2000 âmes en plein déclin démographique puisqu'elle a perdu près d'un tiers de sa population depuis 1960. Alors pour remédier à cette désertion, le maire avait présenté un projet d'accueil de familles de réfugiés début 2022. Mais face au déferlement de haine et les menaces de mort de la part de l'extrême droite, il a dû y renoncer ce mercredi 11 janvier 2023. Le petit groupe d'opposants locaux portés par l'extrême droite et notamment Reconquête ont donc obtenu gain de cause en prenant la haine et le repli de soi.
Et la suite qui est un marronnier des débuts d'année, à savoir combien nos chers patrons nous ont volé au cours de l'année précédente. Et on fait le point tout de suite avec le dernier rapport d'Oxfam qui est sorti aujourd'hui et qui calcule l'empiffrement des milliardaires depuis le début de la pandémie. Alors les milliardaires ont gagné 2,7 milliards de dollars par jour depuis 2020 grâce à l'intervention publique face au coronavirus. Mais surtout, big up Bernard. Avec une fortune de 179 milliards d'euros, Bernard Arnault est désormais l'homme le plus riche de la planète. En exploitant les prolétaires, ce sacré Bernard a multiplié par deux sa fortune en deux ans. C'est aussi bien que Vincent Bolloré, mais un peu moins bien que Rodolphe Saadé, le PDG de CMA-CGM, qui a lui multiplié son inutile fortune par 5 en seulement 2 ans.
Rends les millions.
Et toujours en bref, c'est Mediapart qui nous apprend qu'un ancien collaborateur d'Elisabeth Borne a été débauché par Airbnb. Après plus d'un an et demi en tant que conseiller parlementaire de la ministre, David Miodovnik travaille donc depuis décembre auprès du géant de la location au poste de responsable des affaires publiques. Un bon moyen d'assurer le lobbying de l'entreprise alors même que la crise du logement pousse bon nombre de métropoles et de gouvernements à prendre des mesures face au fléau Airbnb.
Et on enchaîne tout de suite avec
International.
Et on commence tout de suite en Allemagne avec la répression du mouvement écolo.
Oui, alors que l'Allemagne se targue d'incarner un modèle de transition écologique, eh bien les militants et les militantes qui occupent la ZAD de Lützerath depuis près de 2 ans sont là pour rappeler ces contradictions à l'État fédéral allemand, gouverné par une large coalition du centre droit, le CDU, des Verts et des ultralibéraux, la FDP. Or, la ZAD, située dans le village donc de Lützerath, qui se situe lui-même en Rhénanie de Nord-Westphalie, est en cours d'expulsion depuis mercredi dernier, et les derniers occupants occupantes ont été délogés il y a seulement quelques heures avant l'émission. L'occupation de Lützerath avait pour objectif de s'opposer à la destruction du village par la multinationale de l'énergie RWE, qui, elle, voulait agrandir sa gigantesque mine de lignite voisine, qui a le beau nom de Garzweiler 2. Pour rappel, le lignite c'est quoi? C'est une composante du charbon, c'est la source d'énergie la plus polluante au monde. L'enjeu était donc de taille, à la fois très 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 matériel, mais aussi très 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 symbolique. Car si le charbon issu du sous-sol du village de Lützerath venait à être brûlé, l'Allemagne ne pourrait pas tenir la promesse prise par les accords de Paris de maintenir le réchauffement climatique en dessous des 1,5 degrés. C'est devenu le mot d'ordre un peu du mouvement. Cette occupation s'est construite sur de larges coalitions, regroupé sous le slogan « Lützerath reste », qui regroupe des militants écolos, des paysans, des paysannes, un mouvement qui s'appelle « Alle Dörfer bleiben », tous les villages doivent rester, qui luttent depuis des années contre les mines de charbon. D'autre part, après les très populaires occupations de la forêt de Hambach, qui était aussi un gros mouvement écolo en Allemagne, les militants allemands ont développé un certain nombre de modes de fonctionnement, surtout en groupes de travail thématiques, qui leur permettaient d'accueillir des milliers de personnes pour des festivals ou des moments de manif comme le week-end dernier. Du point de vue des modes d'action, ce sont plutôt des pratiques défensives, type sit-in, armlock, occupation pacifique de structures en hauteur qui sont privilégiées, même si ces derniers jours ont été marqués par une plus grande offensivité. Ainsi, dès le 2 janvier, donc la semaine dernière, les premières voitures de flics sont arrivées pour monter un campement spécial, spécialement dédié à l'expulsion en amenant du matériel, du personnel, etc. etc. Plusieurs tentatives ont ralenti l'installation sans forcément l'empêcher. Un peu plus tard, le 8 janvier, il y avait donc une grande marche organisée par ce mouvement « Alle Dörfer bleiben », tous les villages restent. Un mouvement de masse, plutôt spontané, qui a rassemblé quasiment 35 000 personnes, a repoussé le dispositif policier jusqu'à carrément percer les lignes de flics. Et la manif s'est transformée en une immense bataille debout qui s'est terminée par des flics qui, littéralement, pataugeaient dans la fange. Un peu plus tard, 2 jours plus tard, le 11 janvier au matin, des milliers d'agents de police ont envahi la ZAD à l'aide de fourgons, d'engins de chantier, de canons à eau, etc., etc., pour encercler le village et effectivement expulser le lieu. Coup de théâtre final, peu après la prise par les flics de Lützerath, les zadistes ont annoncé avoir creusé un tunnel sous la ZAD dans lequel 2 personnes s'étaient enfouies un bras caché dans le sol, rendant l'expulsion extrêmement dangereuse. C'est ces 2 personnes qui sont sorties il y a quelques heures. Malgré l'expulsion, on souhaite longue vie aux zadistes.
Et on part en Grèce sur l'amère victoire contre la justice raciste.
Oui, la justice grecque a annulé vendredi dernier pour vice de procédure des accusations pour soi-disant espionnage à l'encontre de 24 travailleurs et travailleuses humanitaires sur l'île de Lesbos. Alors parmi les accusés figurait notamment la nageuse syrienne Sara Mardini, qui avait été arrêtée et jetée en prison pendant 3 mois par l'État grec en 2018, alors qu'elle était bénévole pour une ONG d'aide aux réfugiés. Pour rappel, les poursuites avaient été engagées sur la base de rapports de police contenant des erreurs factuelles, je cite, notamment des affirmations selon lesquelles certains des accusés ont participé à des opérations de sauvetage à des dates auxquelles ils ne se trouvaient même pas en Grèce. Le Haut Commissariat aux droits de l'homme des Nations Unies avait demandé à la justice grecque d'abandonner toutes les accusations retenues contre les humanitaires, ce que l'État grec n'a bien sûr toujours pas fait. Alors même si ces accusations sont fumeuses, il n'en demeure pas moins que ce type de procédure a des effets politiques très concrets. C'est notamment cette procédure déclenchée en 2018 qui avait conduit à ce que la plupart des ONG de secours aux migrants cessent leurs activités en mer en Grèce. Encore une fois, la justice grecque regarde du mauvais côté de la mer, on ne l'a pas beaucoup entendu sur les refoulements illégaux de réfugiés à ses frontières perpétrés par sa police.
Et c'est tu as fini ? Très bien. Eh bien, nous continuons avec... Ça, c'était de la transition bien faite. On continue avec cette fameuse interview dont on vous a parlé, des membres du comité de soutien à Vincenzo Vecchi, un militant italien condamné à 12 ans de prison en Italie pour sa participation au contre-sommet du G8 à Gênes en 2001. Il est depuis plusieurs années réfugié en France. L'Italie demande son extradition et le pouvoir politique français est prêt à céder. Une bataille judiciaire et politique est en cours. On écoute cette interview particulièrement intéressante et on vous en reparle après. Nous sommes avec Frédéric Laurence et Jean-Baptiste du comité de soutien à Vincenzo Vecchi. Merci à vous d'accepter cette interview. La première question qu'on voulait vous poser, c'est est-ce que vous pouvez nous détailler un petit peu l'histoire de Vincenzo Vecchi de Gênes à sa demande d'extradition? Qu'est-ce que c'est que cette histoire de demande d'extradition et pourquoi?
Alors, l'histoire de Vincenzo Vecchi, elle commence, la nôtre en tout cas, celle qui nous intéresse, elle commence en été 2001 à Gênes, au moment du G8, où il y a des manifestations qui se déroulent à Gênes, qui commencent le premier jour assez calmement, entre guillemets, notamment avec une manifestation des migrants. Et puis les choses dégénèrent parce que le gouvernement italien et la police à sa solde va mettre en place un système de répression redoutable. Tout est fait, en fait, pour que les choses dégénèrent et que la violence s'installe partout. Ça, c'est une certitude que maintenant on a bien, qui a été d'ailleurs validée par l'ancien chef de la police italienne à l'époque, qui dans une interview en 2015 ou en 2016 reconnaît les faits, reconnaît que les choses ont été faites pour que ça dégénère, pour que la violence soit partout et pour que ce soit dramatique. Donc Vincenzo y participait, il y participait à titre individuel, il ne faisait pas partie de quelques groupuscules que ce soit, il était là avec des potes, mais c'est tout. Et il a participé à ces manifestations qui ont été d'une extrême violence du côté de la police, mais aussi du côté des manifestants. Vincenzo n'a pas été arrêté pendant les manifestations. Il a été arrêté pratiquement un an après, ce qui fait que quelquefois il y a eu des déclarations disant que Vincenzo avait été arrêté les armes à la main, c'est parfaitement faux. Il a été arrêté un an après, chez lui, au petit lever, et absolument pas avec les armes à la main. C'est simplement que la justice et l'État italien ont mis pratiquement un an à trouver les bons coupables, les personnes qui permettraient d'incriminer et de charger la bête. Et Vincenzo en faisait partie, ils en avaient, je crois, choisi une vingtaine à l'origine, ils en ont retenu 10, ce qu'on appelle les 10 de Gênes, en fait partie Vincenzo. Et ces 10 de Gênes, ils les ont accusés, et ils leur ont fait un procès comme ayant participé, ayant été présents lors de ces manifestations à Gênes. Et ils ont utilisé pour ça la loi Rocco. Rocco, c'était un ministre de la Justice sous Mussolini. C'est en 1930 qu'il a mis au point cette loi. C'était une loi qui ne concerne absolument pas des actions contre les individus. Il n'y a aucune voie de fait, aucune voie criminelle dedans. C'est vraiment des atteintes à l'ordre public. Et cette loi, elle a ceci de particulier, qu'elle condamne à un minimum de 8 ans et jusqu'à 15 ans pour la simple présence sur les lieux, peu importe que vous ayez été photographié, que vous ayez des preuves par l'image ou autre de votre action, le simple fait que vous soyez photographié comme étant présent dans un lieu où il y a effectivement eu des barricades, où il y a eu des voitures qui ont brûlé, où il y a eu des dévastations de supermarchés ou des choses de ce genre. Vous n'y avez pas participé, Vincent, il n'y a aucune photo qui montre que Vincent a dévasté quoi que ce soit, mais il était là. Il était là et au même titre que les 9 autres, des 10 de Gênes, il est condamné par cette loi et lui, il est condamné à 12 ans et demi.
Bon, il est condamné et ensuite, que se passe-t-il jusqu'à sa demande d'extradition, puisqu'il y a bien un moment où il arrive en France?
le procès a été très long. Il a été très long parce que la police italienne était en cause. Il n'y a pas eu que le procès des 10 de Gênes. Il y a eu aussi le procès des policiers qui avaient fait des fausses preuves, qui avaient commis des actions criminelles, on peut dire, sur les manifestants. Il y a eu un mort. Faut quand même pas oublier que Carlo Giuliani a été tué d'une balle dans la tête à bout portant par un policier. Donc tous ces faits-là ont fait qu'il y a eu différents procès qui se sont déroulés au même moment. Au même moment du procès des 10 de Gênes dont fait partie Vincent, il y avait d'autres procès qui se déroulaient. Si bien que les choses ont été longues. Et ça a pris grosso modo la décennie, la première décennie de 2000, jusqu'en 2011, où il y a eu un procès qui, là, a rendu le verdict de 12 ans et demi. Et à ce moment-là, Vincenzo, il n'a même pas attendu d'ailleurs que le procès ait lieu, il s'est barré avant et il s'est réfugié en France. Et il se trouve qu'il s'est réfugié à Rochefort-en-Terre, où nous l'avons accueilli. Alors, on ne savait pas du tout qui il était, d'où il venait, quelles étaient les raisons de son arrivée. Simplement, on l'a trouvé sympathique et il était effectivement très sympathique. C'est un village où il y a une pratique, je dirais, de ne pas demander aux gens leur carte d'identité avant de copiner avec eux ou de faire des choses avec eux. Donc, c'est à ce titre, en fait, qu'il est resté à Rochefort-en-Terre. Il est resté à Rochefort-en-Terre jusqu'en 2019, août 2019, où il a été arrêté par les flics. Et les flics, c'était la brigade internationale de, je ne sais pas quoi exactement.
Recherche des fugitifs.
Voilà. Mais sachant que le mandat d'arrêt européen avait été émis en 2016. Alors, c'est sous le gouvernement, c'est sous la présence de Salvini au gouvernement, d'ailleurs, que le mandat d'arrêt européen a été émis et a été exécuté le 8 août 2019, sachant que Salvini est parti quelques semaines après. Mais bon, voilà, c'est son dernier haut fait.
Oui, du coup, vous nous avez déjà un peu expliqué hein, que vous vous êtes constitué en comité de soutien. Vous pouvez nous en parler un peu plus et nous parler des actions que vous avez faites depuis 2019.
Vincent a été arrêté jeudi matin, le 8 août 2019. Il a été arrêté sur un chantier qu'il faisait comme ça chez des copains. Il a été arrêté par une brigade extrêmement importante qui sont arrivés, alors eux, armés jusqu'aux dents, si bien que d'ailleurs les gens chez qui Vincenzo, celle de le chantier, ont été complètement terrorisés. Il y a eu un déploiement de force comme pour un bandit. Je pense même d'ailleurs que les policiers eux-mêmes ne savaient qui était Vincenzo et qu'effectivement, ils exécutaient les ordres. Tout de suite, on a été alertés et on a contacté un premier avocat. On s'est réunis, on était 70. Il se trouve qu'à Rochefort-en-Terre, il y a un bistrot associatif qui s'appelle le Café de la Pente et on s'est retrouvés à cet endroit-là. Et on s'est organisé, les idées ont fusé, notamment une bonne idée. L'une d'entre nous a dit, mais moi, mon père connaît bien les gens de l'AFP, je peux peut-être les contacter. Si bien qu'à 11h du soir, on avait déjà des contacts avec l'AFP, on avait déjà donné nos numéros de téléphone pour qu'ils nous joignent. Et dès le dimanche, en fait, ça a commencé à exploser dans la presse, etc. Voilà, c'est un heureux concours de circonstances qui a fait qu'on a pu tout de suite réagir.
Et depuis, vous faites quoi avec le comité de soutien ?
Eh ben, ça fait trois ans et demi qu'on est sur le pont, qu'on reste sur le pont. Les deux premiers mois, septembre, août et septembre, on se réunissait tous les soirs ou quasiment. Et puis, petit à petit, les choses ont avancé avec les différents points juridiques. Aujourd'hui, on continue à se réunir une fois par semaine et avec pas mal de choses à faire. Pour donner un exemple, mais je pense que mes petits camarades en parleront mieux que moi, le dernier fait juridique important, c'était en octobre à la Cour de cassation à Paris. Au préalable de cette opération, il y a eu quand même 4 tribunes qui ont été écrites, une qui est parue dans Le Monde, une autre dans Le Monde juridique, une troisième à Bruxelles, dans Le Soir, et puis la quatrième, je sais plus. Donc il y a eu tout ça qui s'est fait, et on a fait le 5 octobre, on a fait une conférence de presse à l'Assemblée nationale. Donc tout ça, c'est un gros boulot de préparation. On n'est pas des juristes, on n'est pas des avocats, on n'est pas spécialistes. On s'est entouré d'avocats qui nous sont très précieux, qui sont complètement engagés dans l'affaire.
Alors, tu parlais justement de la Cour de cassation. Est-ce que vous pouvez rapidement revenir sur le parcours judiciaire qu'a subi depuis 2019 Vincenzo Vecchi en France, notamment les passages devant les cours d'appel de Rennes, d'Angers et la Cour de cassation?
Non, le parcours judiciaire de Vincenzo, c'est un parcours assez chaotique, si tu veux, d'un côté. Mais je pense qu'il y a une phrase qui peut résumer ce parcours chaotique-là. C'est quand on était à la Cour de justice de l'Union européenne au Luxembourg. À un moment donné, il y a eu une intervention de la représentante de l'Union européenne qui, en levant le bras plusieurs reprises, a dit « on a un dilemme, il faut qu'on trouve un compromis ». Le dilemme, en réalité, il est très, 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 très simple. Ça veut dire que, d'un point de vue purement juridique, on a raison. Ça veut dire que ce mandat d'arrêt européen-là ne peut pas être appliqué. Il n'est pas conforme à la loi concernant le mandat d'arrêt européen. Mais en même temps, politiquement, ils ne peuvent pas nous donner raison. C'est là, la contradiction, elle est là. D'un point de vue juridique, on a raison parce que déjà deux cours, donc Rennes d'abord et Angers après, ils ont dit que ce mandat d'arrêt européen-là n'était pas valable. À chaque fois, le parquet a fait appel. Et à chaque fois, on est allé à la Cour de cassation. Et chaque fois, la Cour de cassation a cassé le jugement. Ça veut dire que la Cour de cassation et le parquet surtout, c'est un élément, si tu veux, qui dépend directement du ministre de la Justice. Donc, ça veut dire que chaque fois, un organe de justice tel qu'une cour nous donne raison. Et chaque fois, le pouvoir politique décide qu'on ne peut pas vous donner raison. La dernière fois, c'était justement, on a été renvoyé devant la Cour de justice de l'Union européenne. C'est quoi la Cour de justice de l'Union européenne? La Cour de justice de l'Union européenne, en réalité, de justice, elle n'a que le nom. Son rôle, c'est le fait de faciliter la collaboration entre les différents États dans l'espace juridique européen. Ça veut dire que les membres de la Cour de justice, ils sont nommés par les différents gouvernements européens et ils sont là pour défendre l'intérêt du gouvernement. Et effectivement, à cette question, quand effectivement la représentante de l'Union européenne dit « on a un dilemme, il faut trouver un compromis », la réponse de la représentante du gouvernement français a été extrêmement claire. Elle a dit « nous, on ne cherche pas de compromis. Nous, on veut appliquer le mandat d'arrêt européen contre Vincenzo Vecchi. » C'est ahurissant parce que là, on se trouve face à un État de plus en plus autoritaire, l'État français, un État, effectivement, qui n'applique pas les lois qu'il a votées, qui dit simplement, mon intérêt à ce moment, c'est le fait de faciliter cet accord avec l'Italie, et donc à partir de là, je veux, coûte que coûte, que ce mandat européen-là soit appliqué. Donc on a deux jugements qui nous donnent raison, Angers-Rennes, on a deux cassations, et là, la réponse de la Cour de justice européenne, elle est assez étonnante, parce qu'elle dit, le mandat européen, en réalité, il est régi, disons, par 32 cas automatiques. Hein, 32 cas qui sont d'extrême gravité, qu'effectivement, automatiquement, l'individu est renvoyé, par exemple, en Italie. Mais s'il n'y a pas les 32 cas, et c'est le cas de Vincenzo, il y a ce qu'on appelle la double incrimination. La double incrimination, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'effectivement, la loi pour laquelle il était condamné, par exemple, en Italie, elle doit avoir une correspondance en France. Et c'est ça le fond du problème que nous on pose depuis le début. C'est parce que la loi par laquelle Vincenzo a été condamné en Italie, c'est la loi Rocco, la loi dévastation et pillage. Et donc, pour nous, il n'y a pas une comparaison possible entre cette loi liberticide et quelconque loi dans le droit français. En réalité, le Parlement européen, quand il a créé la loi concernant le mandat d'arrêt européen, il a mis cette double incrimination. Pourquoi? Mais parce qu'à un moment donné, cette mandat d'arrêt européen-là, c'était la première pierre pour créer un espace juridique européen commun. Et à ce moment-là, il y avait le danger que certaines lois liberticides d'origine fasciste, d'origine franquiste, puissent rentrer dans cet espace juridique européen. Or, la Cour de justice européenne décide que, peu importe, tout ça, on peut le mettre dedans, on peut le mettre dans le même sac, et ça, c'est quelque chose de gravissime. Ça veut dire qu'une cour, à un moment donné, décide de changer la loi. Ça veut dire qu'une loi votée par le Parlement européen ne peut être changée que par le Parlement européen, c'est ça qu'on dit. Ça veut dire qu'à un moment donné, la Cour de justice européenne, elle est allée au-delà de son rôle. Et donc, on est retourné face à la cassation française à Paris. Et à ce moment-là, la cassation à Paris nous envoie à Lyon. Pourquoi nous envoie à Lyon? Et simplement parce que notre avocat, il a été extrêmement clair. Quand il a fait la plaidoirie, par exemple, qui est magnifique, vous pouvez trouver sur le site, la plaidoirie, par exemple, à la cassation à Paris, il dit, attention, c'est une loi fasciste, d'origine fasciste, moussolinienne, etc., etc. Si vous l'acceptez, vous devenez pratiquement complice de cette loi. C'est quelque chose d'extrêmement fort. Et là, le problème, c'est quoi? C'est que du moment qu'on déclare ça, du moment qu'on alerte l'opinion publique sur ça, à un moment donné, qui va mettre la petite signature en bas? La cassation n'a pas osé. Elle a renvoyé tout ça à Lyon en disant, on vous envoie ça. En échange, la double incrimination ne peut plus être utilisée, donc on vous facilite la tâche. Et vous, par contre, vous mettez votre signature. Ça veut dire que là, le truc aberrant, c'est que l'État français, le gouvernement français, cherche à tout prix à appliquer le mandat d'arrêt européen et il cherche qui veut bien mettre la signature infamante en bas de ce mandat d'arrêt européen-là. C'est pour ça qu'on arrive à Lyon.
Et bah justement, là, on a parlé un peu des lois fascistes. Et voilà, ça arrive dans un contexte particulier avec Mélanie... qui est au pouvoir en Italie. Est-ce que vous pouvez nous parler un peu de ce contexte particulier et de pourquoi ça arrive à ce moment-là?
C'est un contexte particulier pour moi, au-delà de Meloni. C'est un contexte particulier parce que je reviens à l'histoire de la représentante de l'Union européenne qui dit on a un dilemme, il faut trouver un compromis. Parce que, et d'un point de vue politique, ils ne peuvent pas nous donner raison. Mais pourquoi, d'un point de vue politique, ils ne peuvent pas nous donner raison? Mais parce que la loi liberticide, des lois d'origine moussolinienne, des lois d'origine fasciste, elles ont de l'avenir en Europe. Le problème, il est là, c'est que tous les États européens, la France en première, rêvent d'avoir une loi pour laquelle une simple présence dans une manifestation permet de condamner lourdement quelqu'un. C'est l'avenir de la maintien de l'ordre public. Là, par exemple, on rentre dans une zone de turbulence. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner, un rapport, par exemple, aux retraites, un rapport à la répression, etc. On ne sait pas qu'est-ce que ça va donner. Mais si à un moment donné, ça commence à déborder à droite à gauche, ben, une loi dévastation et pillage, mais c'est du pain béni. C'est le futur. C'est pour ça que la France, l'État français, refuse de donner raison, même si d'un point de vue juridique, on a raison. Et deux cours de justice, Rennes, Angers, nous ont donné raison. Elles refusent de nous donner raison parce que politiquement, elles approuvent une loi fasciste.
Alors, peut-être pour terminer, est-ce que vous pouvez nous dire comment les auditeurs et les auditrices qui écoutent cette interview peuvent soutenir le comité Vincenzo Vecchi ou soutenir Vincenzo Vecchi?
Bah, comme tout comité, il y a besoin d'argent. Hein, donc là, en allant sur le site, il y a les liens voilà, qui permettent de faire des dons. Et puis sinon, bah, tous ceux qui peuvent aller à Lyon, je pense que plus on sera nombreux, au moins on leur montrera que c'est pas la peine de nous envoyer à l'autre bout de la France. Ça ne nous empêchera pas d'être présents et de faire le ramdam qu'on a envie de faire par rapport à quelque chose qui va vraiment toucher bien au-delà que le cas de simple de Vincenzo. Quoi.
Très bien, c'est une belle conclusion. Merci beaucoup à tous les trois pour d'avoir répondu à nos questions.
Un matin d'août 2019, t'es embarqué par les keufs. Après le choc, il faut se bouger, c'est la naissance du comité. Nos cerveaux sont mutualisés, on se sent tous concernés. Les petites gens vont farfouiller, trouver des failles dans le dossier. Il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées? En 2001, j'ai 8 de gêne, 300 000 gens ça gêne. Ils viennent pour scander leurs idées, mais vont se faire torturer. Les policiers sont condamnés, mais restent en liberté. Vincenzo Vecchi aujourd'hui encore et toujours poursuivi. Il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées? En 2006, Milan tolère des faves qui crachent leur colère. Vincent et d'autres vont se soulever, vite on va les sanctionner. Cette peine, elle est déjà purgée, mais l'Italie s'arrangera pour ajouter ça au dossier. Qui est-ce qui bafoue le droit? Il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées? La France sera-t-elle complice d'une Italie hors la loi, de lois fascistes et d'injustice sans composer tes mandats? Ou soutiendra-t-elle pour une fois ceux qui risquent leur liberté? Ces alerteurs des dégâts que nos États ont engendrés. N'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées? Il n'a pas tué, n'a pas volé, mais a manifesté. Depuis quand prend-on 12 ans pour exprimer ses idées?
Vous êtes toujours sur Radio Canu, la plus rebelle des radios, c'est le Canu Info du lundi 16 janvier 2023. Vous venez d'écouter successivement une interview des membres du comité de soutien à Vincenzo Vecchi et la chanson du comité de soutien à Vincenzo Vecchi. Alors, nous rajouterons après cette interview que le 27 janvier, il y a une soirée de soutien à ce fameux Vincenzo qui est organisée par des membres de l'ancien comité lyonnais de soutien aux inculpés du 23 septembre. On vous en avait beaucoup parlé, hein, des camarades antifascistes qui avaient été incarcérés en entre septembre et novembre 2021, de manière abusive. Et donc, il y aura la présence de membres du comité de soutien à Vincenzo Vecchi. Cette soirée de soutien du 27 janvier, elle commencera à 18h. C'est à l'Amicale du Futur, 31 rue Sébastien Griff. Et bien sûr, on vous tiendra au courant dans notre émission du passage devant la cour d'appel de Lyon. Nous n'avons pas encore les informations précises de ce passage. Ça peut être dans 15 jours, 3 semaines ou dans quelques mois. Mais évidemment, il y aura un rassemblement et nous vous appellerons à y venir le plus massivement possible pour soutenir ce monsieur et pour éviter à tout prix son extradition.
Et tout de suite, on passe au...
National.
Et on enchaîne sur la plus pourrie des réformes qui arrive dès jeudi.
Ouais, c'est le big dossier du moment, on l'attendait, la voilà, et elle est bien bien vénère, c'est la réforme des retraites. Alors, elle a plusieurs volets, bien sûr, le premier c'est le recul de l'âge légal du départ en retraite de 62 ans à 64 ans, mais aussi... et surtout l'accélération de la loi Touraine promulguée en 2014 sous un certain François Hollande et qui devait être enclenchée en 2001 et qui l'a été, mais qui va être accélérée, dont l'objectif est d'allonger progressivement le nombre de trimestres nécessaires pour obtenir une retraite à taux plein. Et donc on arrive aujourd'hui à 43 annuités, ce qui est considérable et qui va provoquer une dégringolade des pensions des retraités les plus précaires. La réforme s'appliquera dès cette année pour celles et ceux nés à partir du second semestre 1961, qui devront travailler 3 mois supplémentaires. Les générations 1965 et 1966 sont les plus grands perdants puisqu'ils devront travailler l'équivalent de 172 trimestres pour 43 annuités au lieu de 169. Le fameux minimum vieillesse de 85% du SPIC ne s'appliquera que pour les personnes ayant fait soit ces 43 annuités ou ayant atteint les 67 ans. Autant vous dire que la baisse des pensions des personnes ayant travaillé à temps partiel ou ayant alterné travail et chômage va être particulièrement forte, notamment, et une fois n'est pas coutume, pour les femmes. 20 à 30% des hommes et femmes, notamment chez les ouvriers, ne sont d'ailleurs plus en emploi à l'âge de la retraite. autre versant, autre volet de la réforme, c'est la fin des régimes spéciaux pour les entrants, les nouveaux travailleurs et travailleuses de la RATP, les gaziers et les électriciens. Alors faisons un petit parallèle un peu étonnant ou pas, les flics, eux, pourront toujours partir à 54 ans. Oui, 54 ans. C'est vrai que fracasser des crânes dans les quartiers populaires et dans les manifestations, ça doit sacrément fatiguer. Et c'est la même chose pour les matons et les militaires. Alors rappelons quand même au gouvernement qu'il y a 8 fois plus de morts pour les ouvriers et les ouvrières du BTP que chez les flics dans le cadre du travail et 5 fois plus du côté des agriculteurs. L'une des raisons principales de cette réforme est de faire pression sur les salaires. Plus il y a de main-d'œuvre, plus la marge de manœuvre patronale est forte. On le sait en parallèle, le gouvernement va continuer à diminuer les impôts sur les entreprises et les cotisations patronales, comme l'ont fait à peu près tous les gouvernements successifs depuis la fin des années 90. Résultat, et malgré les crises, 80 milliards d'euros ont été redistribués aux actionnaires du CAC 40 en 2022. C'est un record absolu. En parallèle, les salaires, eux, on en a déjà beaucoup parlé, vous le savez, diminuent à cause de l'inflation et du mépris patronal. La solution, eh bien, c'est la lutte sociale, la grève reconductible, le blocage économique du pays et les manifestations les plus massives possibles. Plusieurs secteurs sont en ordre de bataille, la RATP, les cheminots, les gaziers, gazières, électriciens, électriciennes, raffineurs, raffineuses, etc. Il va falloir être déterminé, au-delà des journées de mobilisation ponctuelles de l'intersyndicale. Il y a d'ailleurs à ce titre une réunion pour information à Lyon le 19 janvier à 18h à l'annexe de l'ECG au 27 rue Salomon-Rénac pour discuter actions, piquets de grève à soutenir, mettre en place pourquoi pas des sortes de maisons de la grève par secteur géographique de la métropole pour discuter de la grève, pour discuter du mouvement à la base. Bref, il y a beaucoup d'idées. Venez massivement à la manifestation du 19, faites grève, on peut la gagner.
Alors, si Elisabeth Borne a des propositions politiques bien pourries, elle n'a pour autant pas le monopole de la stupidité au sein du gouvernement. Et on s'intéresse tout de suite à son ministre de l'Intérieur.
Et oui, Gérald Darmanin, après avoir pondu en novembre une circulaire bien dégueulasse qu'il a tenu à signer de sa main, ordonnant au préfet d'expulser le plus possible d'étrangers, va continuer en 2023 avec une loi pour virer tous les méchants étrangers dont il parle aux journalistes depuis la sordide affaire de la petite Lola. On a donc lu l'avant-projet de loi Darmanin pour contrôler l'immigration et améliorer l'intégration, transmis au Conseil d'État le 20 décembre pour avis. Ce projet de loi sera présenté en Conseil des ministres le 1er février 2023, puis examiné par le Sénat en février-mars et enfin par l'Assemblée nationale en première lecture en avril-mai 2023. On y trouve un nouveau titre de séjour métier en tension, accessible à partir de 3 ans de présence en France et 8 mois de travail dans un métier en tension, que Darmanin vend comme la partie sympa de son projet de loi équilibré dans les médias, mais qui sert surtout au patronat en rate de travailleurs dans les domaines où les conditions de travail sont trop pourries et les salaires trop bas. En parallèle avec la réforme du chômage et celle de retraite, c'est parfait. D'ailleurs, ce titre de séjour change à peine de ce qui existe déjà avec la circulaire Valls, qui pourrait largement être utilisée pour régulariser des dizaines de milliers de travailleurs sans papier en France. Et le gouvernement a bien précisé que ce titre métier en tension ne devrait pas ouvrir la voie à des régularisations massives, ce dispositif n'étant prévu que pour 3 ans. Concernant la langue française, l'accès à la carte de séjour de 10 ans avait déjà été conditionné par la dernière loi au niveau de français A2 écrit et oral, et c'est maintenant au tour des cartes pluriannuelles de 2 et 4 ans d'être conditionnées à un niveau de français pas encore fixé. Dans la partie expulsion en tout genre, à part la diminution des quelques protections qui existaient encore dans la loi contre la double peine d'expulsion pour les étrangers condamnés au pénal, auquel Darmanin tient absolument depuis l'affaire de l'imam Iqiyoussen, le plus inquiétant reste la création de 2 articles de loi qui prévoient de ne donner aucun document de séjour ou de retirer les documents de séjour aux étrangers dont, je cite, « le comportement manifeste qu'il ne respecte pas la liberté d'expression et de conscience, l'égalité entre les hommes et les femmes, la liberté d'orientation sexuelle, les symboles de la République, ou qu'il se prévaut de ses croyances ou convictions pour s'affranchir des règles communes régissant les relations entre les services publics et les particuliers. » Alors par qui et comment ce comportement sera apprécié ? Suspense, mais en tout cas, on pourra ne pas donner un titre de séjour ou retirer un titre pour le simple fait d'avoir manifesté qu'on ne respectait pas les symboles de la République. Aux frontières, un petit article permettant la prise d'empreintes par coercition aux frontières extérieures. un autre qui officialise le droit des flics à fouiller les voitures des particuliers, et encore un autre qui passe le délit commis en bande organisée d'aide à l'entrée et au maintien irrégulier à 5 ans d'emprisonnement et 1 million d'euros d'amende. Il n'y aura plus non plus de visa court ou long séjour délivré à quelqu'un qui a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français depuis moins de 5 ans et qui n'apporte pas la preuve qu'il a quitté la France dans le délai qui lui était imparti. Au sujet de l'asile, l'OFPRA et la CNDA seront régionalisées et on passera au juge unique systématique à la CNDA, la Cour nationale du droit d'asile. Pas besoin de formation collégiale à 3 juges pour refuser les demandes. Toutes les décisions à l'asile, que ce soit le refus d'allocation, l'arrêté de transfert Dublin ou le QTF suivant un refus d'asile, devront être contestées dans un délai de 7 jours contre 15 pour une QTF actuellement suite à un refus d'asile. Bref, une autre loi bien dégueulasse à combattre absolument.
Et on passe tout de suite...
Local.
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 Et donc on commence et on termine par ce sujet au local sur le plan social à Tout-Pargel.
Et oui, des centaines de salariés de l'entreprise...
C'est ouais, bon, tu l'as. Ton merci. Micro est là.
Des centaines de salariés de l'entreprise Place du Marché, donc anciennement Tout-Pargel, sont venus de toute la France et sont réunis donc mercredi devant le tribunal de commerce de Lyon. L'entreprise était placée en redressement judiciaire depuis 3 ans. Les repreneurs, je reparlerai d'eux un peu plus loin, les repreneurs avaient pas réussi à redresser la barque si tant est qu'ils les souhaitaient. Après une mise en délibéré de 48 heures, le tribunal de commerce de Lyon a décidé de la mise en liquidation judiciaire de l'entreprise. Ce sont donc 1900 personnes qui vont perdre leur emploi, soit l'un des plans sociaux les plus importants de ces dernières années. Le tribunal n'a imposé aucune mesure compensatrice à l'enseigne. Les salariés ne partiront donc qu'avec le minimum légal. Ils ont indiqué qu'ils poursuivraient leur mobilisation pour réclamer une prime supralégale ainsi qu'un meilleur accompagnement. Alors, je vous ai promis de vous parler donc de ces repreneurs hein, parce qu'on les connaît bien ici. Il s'agit de la société Agihold qui appartient au bien connu frère Bahadourian. Oui, oui, les petits-fils de Djebrahil qui a ouvert l'épicerie sur la place désormais éponyme. Alors non, les Bahadourian ne sont pas des petits épiciers de quartier. Ils sont cofondateurs et actionnaires de l'ancienne Grand Frais avec une fortune estimée à plus d'1,3 milliard d'euros. Il s'agit de la 90e fortune française et ils se placent en 5e position dans leur secteur. Et tiens, leur fortune qui était estimée à 300 millions d'euros en 2020 a bondi de près d'1 milliard l'année suivante lorsqu'ils ont vendu 60% de leur part de Grand Frais. C'était donc juste après avoir acheté Tout-Pargel qu'ils ont rebaptisé Place du Marché et qu'ils ont tranquillement laissé couler. Mais rassurons-nous, hein, si leur boîte coule, il semble que leur fortune personnelle se porte plutôt bien. Ils investissent d'ailleurs au Luxembourg, mais aussi en Suisse. Au moment du rachat de Tout-Pargel, les deux frères avaient signé une clause de pénalité de 10 000 euros par salarié s'ils faisaient un plan social. Ils ont donc attendu 3 ans et récupèrent de leur côté les 30 dépôts de l'entreprise. Pour leurs salariés, rien du tout. Ils ont donc décidé, les salariés, vendredi, de maintenir le blocage des entrepôts et d'empêcher les frères Bahadourian de récupérer le 1 million d'euros de marchandises qui restent à l'intérieur. On leur souhaite bon courage et on espère qu'ils obtiendront au minimum leur prime supralégale.
Et une petite pause musicale avant de passer à l'interview avec la rappeuse allemande Lena Störfaktor et son morceau Runde Eins.
Yeah, Lena Störfaktor, die Essenz. In diesem Gefecht hast du Pech, wirst auseinandergenommen. Du taumelst paar Mal auf der Stelle, so als wärst du benommen. Fragst dich, während deine Arme zu straucheln beginnen, warum bin ich hier hingekommen? Und prompt liegst du auf dem Bauch und schnappst nach Luft. Du siehst keine Möglichkeit, die Schläge landen treffsicher. Hier geht es um Rap, Mann, und ich weck dich, wenn du wegnickerst. Das ist kein fairer Kampf, die Lyrics setzen sich in dein Gedächtnis. Vor diesem Ding hier schreibst du dein Vermächtnis. Es rettet dich kein Ringrichter, ich feuer die Schlinger sicher. Und du Schlingel, wartest auf die Klingel, aber nein. Blick der Wahrheit ins Gesicht, das ist kein Spiel, das ist real. Ich teile aus und du kassierst. Yeah. Nach der ersten Runde fragst du dich, wie kommst du aus der Nummer raus? Doch die Seile sind gespannt, die Kamera hält drauf. Du hebst die Hand und guckst traurig in die Crowd. Doch das ist Rap, mein Gebiet, und ich zerfetz. Ich komm nochmal, wenn du dich traust. Komm nochmal, wenn du dich traust. hier wirst du mit Worten vermöbelt, deine Freunde, die pöbeln, doch der Sieger steht längst fest. Ich überlasse der Presse den Rest. Ruh dich nicht aus auf Applaus und Sponsoren, wenn die Skills nicht ausreichen und du kämpfst zu konform. Jahrelanges Training auf dem Beat, es zahlt sich aus. Und die Crowd bounce und merkt, du pumpst die Muskeln nur zu Hause auf. Fight es wie ein Lauch, wenn ich die Scheiße spitte, gibst du auf. Von die unermesslich und den längsten Atem hab ich auch. Und wenn du glaubst, das ist nur Gepause, geb ich dir mit Realness auf die Schnauze. Mic check, der Überraschungseffekt ist mein Joker. Wenn ich am Mic schreien sie lauter, also räum den Ring und mach ihn sauber. Nach der ersten Runde fragst du dich, wie kommst du aus der Nummer raus? Doch die Seile sind gespannt, die Kamera hält drauf. Du hebst die Hand und guckst traurig in die Crowd. Doch das ist Rap, mein Gebiet und ich zerfetz. Ich komm nochmal, wenn du dich traust. Nach der ersten Runde fragst du dich, wie kommst du aus der Nummer raus? Doch die Seile sind gespannt, die Kamera hält drauf. Du hebst die Hand und guckst traurig in die Crowd. Doch das ist Rap, mein Gebiet und ich zerfetz. Ich komm nochmal, wenn du dich traust.
On vient d'écouter la rappeuse allemande Lena Störfaktor avec son morceau Runde 1.
Et on commence donc notre interview du jour en direct avec deux camarades de la CGT Ville de Lyon. Alors bien sûr, il y a Sébastien qu'on ne présente plus, qui vient quand même assez régulièrement chez nous. Et puis il y a Nadia aussi. Merci à vous deux de venir répondre à nos questions. Et là, en l'occurrence, on va quand même parler de quelque chose d'important. C'est la victoire des salariés de la CGT, de la Ville de Lyon en général, mais portée par la CGT Ville de Lyon, contre la mairie par rapport à leur fameuse et surtout terrible note de service anti-grève. Est-ce que vous pouvez nous rappeler d'abord en quoi elle consistait, cette note de service, et d'où elle sort ?
Bonsoir Radio Canu déjà, merci de nous avoir invités. Alors cette note de service, elle a été sortie en 2021, en août 2021, juste avant la rentrée, pour limiter le droit de grève aux agents des crèches et des écoles. Elle reprend en fait en quelques points la loi de la transformation de la fonction publique qui a été faite par Dussault. Ça nous rappelle quelqu'un pour les retraites, ouais. C'est un peu le même. Et en fait, ce qui se passait, les agents des crèches devaient se déclarer 48 heures avant de faire grève et surtout ne pouvaient plus poser des grèves à l'heure, mais devaient poser une journée entière. C'est-à-dire que même s'ils voulaient faire 2-3 heures de grève, on leur disait « vous pouvez faire vos 2-3 heures de grève ». Mais une journée de salaire entière leur sera prise. Quoi.
Alors justement, Nadia, tu travailles dans les crèches. Toi, tu as dû voir les conséquences un peu de cette note de service. Comment ça s'est traduit exactement ?
Bah, nous, en crèche, en sachant que à la base, on faisait grève sans prévenir au préalable 48 heures à l'avance. Et on pouvait débrayer une heure, deux heures, enfin en fonction du temps qu'on voulait effectuer. Et cette note de service a impacté beaucoup d'agents dans la mesure où on devait se déclarer 48 heures avant et on était gréviste effectivement pour une journée de 24 heures. Ce qui a été qui a impacté énormément d'agents parce que déjà les salaires, en sachant que les salaires des agents en crèche, c'est des salaires qui en moyenne sont de 1350 euros pour un travailleur à temps plein. Et un agent qui se déclarait gréviste pour une journée perdait en moyenne 60 euros. Et du coup, cela pèse sur les salaires des agents, sachant que c'est des petits salaires. Et du coup, nous, on a été impactés dans la mesure où on ne pouvait pas se permettre de faire grève une journée complète par rapport au salaire qu'on touchait. Et voilà, il y avait beaucoup d'agents. Bah, du coup, pendant cette période de cette nouvelle note de service, bah, on a été plus ou moins...
Vas-y, prends ton temps.
On a été plus ou moins forcés à ne pas faire grève, justement, parce que c'était compliqué. Et du coup...
Vous avez été direct, vous l'avez bien senti, quoi, en tant que
coup, voilà,
vous étiez les principaux et principales concernés, en gros, de cette...
C'est ça, on était, du coup, pendant cette période, il n'y avait pas beaucoup de... Enfin, les mouvements de grève n'étaient pas très suivis par les agents, malgré qu'ils étaient pour les revendications de toutes les organisations syndicales. Et du coup, nous, on a été vraiment impactés.
Ouais, donc ça a été efficace, finalement, cette fameuse note de service. Alors, qu'est-ce que vous avez décidé de faire à la CGT avec les travailleurs et travailleuses de la ville de Lyon pour essayer de les faire céder à la mairie.
Ah bah on a dû porter l'affaire au tribunal administratif, hein. Il n'y a pas eu d'autre solution. Il faut savoir qu'on met des préavis de grève à peu près tous les mois, et tous les mois on remettait un coup sur cette note de service qui nous paraissait illégale, et on avait raison, elle était illégale. Enfin, la première violence qui est faite aux femmes, à la ville de Lyon, mais dans le monde du travail en général, c'est de ne pas payer les femmes comme les hommes. Donc déjà, les femmes à la ville de Lyon, dans les filières féminisées, ne sont pas payées comme les hommes, et en plus, ces filières féminisées, on leur empêche de faire le droit de grève. C'est doublement violent, quoi. Je parlais tout à l'heure avec Nadia, elle bosse à 80% du temps, pas parce qu'elle a envie de bosser à 80% du temps, c'est parce que 5 jours dans une crèche, 5 jours à faire de la cuisine, c'est difficile. Elle se paye sa pénibilité. Et en plus, derrière, on lui met un coup de massue en lui empêchant de faire la grève. Elle a un salaire de 1 280 € net par mois. Une journée de grève, c'est 60 €. Donc quand vous êtes à 1 200 € par mois, je veux dire 60 €, si vous les perdez, vous n'arrivez plus à vous en sortir, quoi. Il faut choisir entre, en plus en ce moment, se chauffer, manger ou quoi que ce soit. Ce sont souvent aussi des femmes seules. Donc c'est une vraie galère pour elles. Là, on est vraiment content d'avoir gagné. En plus, bon, il y a la grève du 19 qui arrive. Et je sens qu'il y a un grand élan et que ce mouvement de grève va marcher à la ville de Lyon, parce qu'on a plein de coups de téléphone. Alors, pense qu'il y aura plein d'endroits mis en grève.
On va y revenir juste avant deux choses. Qu'est-ce qu'a motivé la décision du tribunal administratif par rapport à la décision de la mairie verte, verdissante, libérale de Lyon?
Ben, en fait, c'est déjà dans la loi du Sceau, ils auraient dû, pendant un an, discuter avec les syndicats sur cette mise en place d'une note de service ou sur le droit de grève ou sur un service minimum, ce qu'ils n'ont pas fait. En fait, ce qui s'est passé à la rentrée 2021, il y avait le dossier des 1607 heures qui nous faisait travailler en plus, où tous les syndicats étaient contre, et c'est pour ça qu'on avait mis un préavis de grève à la rentrée, quoi. Et c'est pour ça qu'ils leur ont empêché de faire grève. Donc c'est essentiellement là-dessus mais ils vont y revenir, hein. Ville de Lyon va y revenir, malheureusement. Et en plus, alors nous, la CGT, on évite de trop se faire, de trop dire à la ville, il va peut-être falloir renégocier autre chose, mais d'autres syndicats ont envie de négocier. Alors moi, j'ai pas envie de négocier le droit de grève, c'est un droit. Enfin, comme c'est indiqué, c'est un droit de faire grève. Donc, il faut leur foutre la paix à leurs agents, et puis s'ils font grève, avec les petits salaires qu'ils ont, ils font pas ça pour le plaisir, hein. C'est qu'il y a des choses qui vont pas à la ville de Lyon. Les conditions de travail sont pas bonnes. Voilà, les filles sont vraiment... les femmes qui travaillent à la ville de Lyon, excusez-moi, sont vraiment cassées, quoi, par le boulot.
Alors, justement, est-ce que, de manière générale, en dehors de cette histoire de notes de service et de tentative de la mairie de briser le droit de grève des salariés, hommes et femmes de la ville de Lyon, quelle est la situation générale, comment ça se passe, de manière générale? Alors, c'est peut-être une vaste question, mais qu'est-ce que vous pourriez en dire? Quelles sont vos autres revendications du moment? En dehors de la réforme des retraites, j'entends, on y vient juste après.
Ah, au niveau local, de toute façon, ce sont les rémunérations qui sont vraiment importantes. Une autre augmentation devrait être vraiment importante. Vous savez, un fonctionnaire, quand il démarre sans concours à la ville de Lyon, c'est partout, hein, pendant 12 ans, il a, 8 € d'augmentation, voilà, au bout de la 12e année. D'accord. C'est-à-dire que les 7 premiers échelons du grade d'un fonctionnaire, c'est le même salaire. Pendant 12 ans, vous n'avez aucune augmentation. Il y a le resserrement du SMIC, il y a tout ça qui se met en place. Enfin, je parle beaucoup des catégories C, mais même les cadres, les catégories B, on ne trouve plus d'agents. Actuellement, la ville de Lyon, enfin, vous voyez, on fait une campagne de recrutement assez intense sur tous les métiers, on n'arrive plus, on n'est plus attractif. Donc là, actuellement, c'est vraiment la rémunération qui est le plus important. On a déposé un préavis de grève local au niveau du 19 janvier. On demande le paiement de la prime Ségur pour tout le monde. On demande une prime de 1 000 € d'inflation. C'est dur.
Alors, quelle est la réponse de la mairie centrale? Quelles sont leurs marges de manœuvre? Est-ce qu'ils pourraient décider cette augmentation? Ou sur quoi ils se basent pour refuser, pour la refuser concrètement?
Ils ont plus d'argent, ils ont plus de sous. Alors, on a insisté fortement cet été pour rencontrer le maire. Enfin, on voulait vraiment savoir rencontrer
Grégory
le maire. Grégory Doucet. Ouais. Puisqu'on entendait parler de 20 millions d'euros d'économie, de marge de manœuvre. Ça nous rappelait un peu les COP Colomb et tout ça. On se disait, mais qu'est-ce qui se passe? Et on est allé le voir le 13 juillet en lui demandant comment il allait faire pour avoir des recettes supplémentaires, quoi. Et on lui a... Enfin, je sais que ça va pas être bien, mais on lui a dit, il faut peut-être augmenter les impôts, quoi. Alors... Là, j'ai vu qu'il augmentait les impôts fonciers de 9%. Donc, il y aurait une partie de la somme qui serait trouvée, quoi. Mais voilà, on est toujours un petit peu... Et puis, il y a Macron derrière qui en fout plein la gueule aux fonctionnaires et plein la gueule aux collectivités. Donc, c'est pas évident, quoi.
D'accord. Alors, on va arriver sur ce 19 janvier, sur cette grève contre la réforme des retraites. Comment est-ce que vous, en tant que CGT Ville de Lyon, vous sentez dans les crèches, vous sentez un peu dans l'ensemble des secteurs salariés représentés, et il y en a quand même beaucoup, il y a quand même plusieurs milliers de personnes qui travaillent pour la Ville de Lyon. Comment est-ce que vous avez l'impression que ça va marcher, cette grève? Les gens ont l'air d'être en colère. Voilà, est-ce que vous pouvez nous raconter un peu ça?
Bah là, il y a 11 000 fiches de paye qui sortent par mois à la ville de Lyon. Donc, c'est potentiellement 11 000 agents. La dernière fois qu'on a fait grève, je crois que c'est au mois de décembre, et ça s'était jamais vu autant d'écoles fermées. Et là, alors qu'il y avait la note de service qui limitait aux agents de faire grève, et là, je veux dire, le téléphone du local n'arrête pas de sonner. On nous demande comment, parce que vu que la note de service est tombée, ouais, les agents savent pas. Il y a encore des petits chefs qui font un peu du zèle en disant bah si, il faut que vous vous déclariez avant, ça sera la journée entière ou quoi que ce soit. Donc on n'arrête pas d'informer les gens comme quoi. Non, c'est comme avant, vous faites la grève comme vous avez envie. Beaucoup de gens qui nous demandent aussi où est le lieu de la manifestation. Je m'attends à quelque chose de bien à la ville de Lyon. Et j'espère aussi dans tous les secteurs, tant qu'à faire, parce que il n'y a pas que la ville de Lyon dans la vie, et il faut que tous les secteurs se mettent en grève pour qu'on y arrive. Quoi.
Et dans les crèches, Nadia, tu as l'impression que la décision du tribunal administratif, ça a été assez relativement bien diffusé. Les gens sont au courant que les travailleuses, notamment, sont au courant que maintenant, il est possible de faire grève à nouveau sans se faire supprimer une journée de travail.
Bah, on a beaucoup de remontées par rapport à cette nouvelle
décision.
Ouais. Du coup, les agents sont plus sereins, vont aller sur manifester, vont faire grève, et du coup, ne sont plus pris par cette note de service où il fallait prévenir 48 heures avant, ouais. Et puis ils ont plus cette angoisse de perdre une journée de salaire, parce que c'est quand même énorme sur la paye à la fin du mois. Enfin, ils le voient, on est en pleine crise, et du coup là, enfin, moi, toutes les remontées que j'ai, c'est que franchement ça va bouger, parce que les filles sont contentes, parce qu'il y a beaucoup, enfin, cette note de service, elle concernait plus l'éducation et la petite enfance. C'est un milieu, c'est presque plus de 80% un milieu féminin, et du coup c'était plus les femmes qui étaient impactées par cette note de service. Et bah là, elles sont contentes de cette victoire. Elles vont pouvoir faire grève comme avant, se déclarer comme elles veulent, et voilà. Et être avec nous dans la rue.
Dans la rue, je dis.
Chose qu'elles ne pouvaient pas faire depuis un an.
Ok.
Non, juste un petit truc que je voulais rajouter, parce que en fait, ça nous a coûté de l'argent, bien sûr, de mettre la ville au tribunal administratif. Ça nous a coûté 2 500 € de frais d'avocat, qu'on a payé, qu'il n'y a pas de souci. Et là, la ville de Lyon vient de nous verser 1 300 € de dommages. On va en discuter en commission exécutive pour mettre ces 1 300 € de côté et voir les gens qui sont en lutte ou quoi que ce soit, et pourquoi pas aller, on l'a fait là il n'y a pas longtemps pour les agents d'entretien de Perrache, où on a versé 300 ou 600 euros. Et donc là, on le fera aussi pour les gens qui se mettent en grève et qui auront des difficultés. Quoi. Je pense que c'est important qu'on soit tous solidaires les uns les autres.
C'est vrai que ça passera probablement aussi par la constitution de caisses de grève pour les secteurs qui vont partir en reconductible. Et on espère qu'ils seront les plus nombreux possibles. Donc, on se retrouve, vous et nous, jeudi, dans la rue, donc 11h, à la manufacture des tabacs. Je pense que d'ailleurs, ça va nous permettre de basculer sur l'agenda politico-militant de la semaine. Merci à vous deux d'être venus nous raconter cette victoire. Mais bien sûr.
Si je peux me permettre, vas-y. En fait, c'est le 24 janvier 2023, à 18h30, il y a la diffusion du film La Sociale. Et ensuite, une soirée débat, bien sûr, sur les retraites, qui est organisée à la salle des conférences du Palais des Travails à Villeurbanne, par l'UL de Villeurbanne, bien sûr. Merci à vous.
Très bien, merci à vous deux. Et donc, on finit cette émission. Il nous reste 1 minute 15 même, par le traditionnel agenda. À vous.
Oui, alors on a une réunion demain mardi sur les accords de libre-échange et leurs impacts sur les politiques locales au Palais du Travail. Mercredi 18 janvier, une garderie autogérée au Casdal et une collecte de vêtements à la plume noire à 17h30, et la garderie c'est entre 14 et 17h. Le jeudi 19 janvier, c'est une journée de manifestation dès 11h à la manufacture des tabacs au métro D sans souci.
À 18h, vous n'hésiterez pas à venir à l'annexe pour discuter à la base avec différents secteurs de ce qu'on peut faire aussi en dehors du cadre de l'intersyndicale. À l'annexe 27 rue Salomon-Rénac, l'annexe de l'ECG.
À 19h le même jour au Clameur, vous avez une projection débat sur le film Gerland, un air de Brooklyn. Et le vendredi 20, vous avez plein de rencontres, dont une avec Pascal Abatangelo autour de Je courais en pensant à Anna à la Griffe à 18h.
C'est un voyage à travers les luttes radicales italiennes des années 70.
La suite, c'est toujours au Casdal. Vous avez l'Assemblée du Casdal à 18h30 et une autre conférence à l'espace Flora Tristan sur une conf gesticulée de Philippe Cazeneuve sur le thème L'écran méchant loup à 20h30. Le 21 janvier.